Et ce matin, j'ai trouvé quelque chose là qui serait peut-être intéressant de fouiller un peu. Tu écris dans le...
Tu vois rien.
Encore une fois, dans le chemin de ronde, tu écris ce que je sais, ce que je sens, ce que je comprends. Entends-moi des fréquences variables. Il faudrait mesurer ces fréquences, mais pour cela, il est nécessaire que la conscience se redouble, et dès qu'elle y parvient, la fréquence change. As-tu trouvé depuis le moyen de contrôler cette fréquence, et si oui, par quel mécanisme?
Bouille. Alors ça, alors. Ça voudrait dire que la conscience d'une chose change cette chose.
Oui.
Au fond. Et c'est vrai que une chose qui m'a beaucoup frappé dans les... au cours des, je sais pas, 10 ou 15 dernières années, c'est l'idée que, admise par la science, que l'observation change la chose observée. Donc la transforme, on transforme la qualité. Ça, c'est ce qui veut dire, au fond, que l'observation n'est jamais neutre, alors qu'on pensait qu'elle était neutre. Et qu'elle pouvait donc prélever une information sur l'objet observé sans transformer cet objet. Alors l'idée que tout prélèvement d'observation change la chose observée, ça introduit beaucoup de vivacité dans la relation, mais ça introduit aussi une incertitude sans cesse reportée de stade en stade. Alors, quand j'ai écrit ce que tu citais, je n'en étais... je connaissais pas ce problème, enfin cet état de la réalité. Au fond, la réalité est changeante dès qu'on l'observe. C'est une sacrée... métamorphose. En somme, il y a une métamorphose permanente dans la relation.
Oui.
C'est pas mal, ça.
Moi, ce que je me demande, c'est si tout n'est pas écrit déjà et si nos postures ne nous reviennent pas comme avec
comme
le signe
moment.
De... Oui, comme un... Oui,
mais non, tout n'est pas écrit puisque tout change au fur et à mesure qu'on lit. C'est ça qui est fou.
Oui, mais peut-être...
Et c'est en même temps, c'est une vérité totale.
Oui.
Toute lecture... il n'y a pas de lecture définitive, heureusement. Et toute lecture transforme le texte. Et pourtant, le texte reste identique à lui-même dans sa matérialité, quoi.
Et oui, c'est ce qui me fait penser qu'il existe peut-être une totalité au-delà de ce que nous pouvons... là, on est dans une problématique plus platonicienne, finalement. Puisque à ce moment-là, on confondrait l'ombre de nos projections mentales avec la réalité, jusqu'à l'épuisement de tous les possibles et jusqu'à l'avènement du rien absolu, ou du vide absolu.
Ce qui est beau, c'est l'idée qu'on puisse épuiser les ombres. On ne peut pas épuiser les ombres, parce qu'elles sont, elles vont de l'opacité à la transparence, et de la transparence revient à l'opacité, si je puis dire. Au fond, ça me plaît bien. Il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est la relation. Et cette relation est toujours relative. Elle est relative à la fois au moment durant lequel elle a lieu, à l'espace dans lequel elle a lieu, et à la mise en jeu à la fois de l'observateur et de l'observé.
Et voilà. Donc là, on est en plein, debout, en plein dans le vide.
Et c'est pas le vide, c'est quelque chose de... Encore une fois, on est dans l'interminable. On n'est pas dans le vide, là.
Oui, mais cet interminable, moi, je sens qu'il fait appel à un vide en moi, si tu veux. C'est-à-dire, oui. Ou un vide totalement extérieur à l'intérieur duquel je me trouverai. C'est l'image que suscite ta proposition. Tu vois?
Oui.
Dans l'immédiat, quoi.
Oui. Moi, c'est une chose que je me rends compte, pas comprise par mon entourage immédiat, que la plupart du temps, je suis dans le vide. Plus je vieillis, je crois plus, je fais naturellement le vide en moi, de telle sorte que Oui, ben, pendant de longues périodes de ma journée, je ne pense à rien. C'est pas que je pense à rien, c'est que je suis dans le vide. Enfin, il y a du vide, et ce vide me repose. Et au fond, je crois, rend plus efficace l'activité mentale. Quand l'activité mentale se met en route, je pense qu'elle est d'autant plus efficace que elle n'est pas parasitée par
l'ego, le vouloir, enfin tout ce qui...
Une fausse activité.
Par une fausse activité. Oui. Alors ça, ce dont tu parles pour ce qui concerne l'écriture, c'est exactement ce que je vis en peinture. Parce qu'en fait, je passe des heures et des heures dans le vide, et puis à un moment, devant la page, il y a un déclic qui se produit, et puis je suis le déclic. C'est une espèce d'obéissance. Mais François Chang me disait la même chose, quand on s'est téléphoné il y a une quinzaine de jours, il me dit, vous savez Claude, de toute façon, moi je ne fais rien d'autre qu'obéir.
Ah oui.
Oui.
En même temps, je comprends, et je ne suis pas sûr de comprendre. J'obéis, mais j'obéis à quoi ? J'obéis à la mise en attente. Et ça, on n'a même pas besoin d'obéir à la mise en attente. Je veux dire qu'elle ça devient naturelle. Si tu veux, c'est vrai, pour moi, rien ne presse à réparer la porte. En effet, il fait froid, il faudrait mieux réparer la porte. Comme si on ne se répare pas la porte, je m'en fiche.
En même temps, c'est amusant, parce que lorsque je t'observe et que je vois comment tu produis certains gestes et tout, ils sont si rapides qu'on les voit à peine se produire. On en voit la conséquence, mais on voit pas le trajet proprement dit. Comme si, dans ce que tu fais, le vide était désormais tellement présent et... Le vide est rapide quand il entre dans le... Quand son élan pénètre dans la matière vivante, il est d'une rapidité fulgurante. Et ça...
Mais j'avais pas conscience à ce point de sa présence, si tu veux, au fond, depuis... Je me rends compte depuis que nous parlons que l'état, au fond, l'état habituel, l'état normal, c'est ça, c'est le vide. Un vide qui prépare, c'est pas de l'attente. Ou alors c'est... Oui, tiens. Non, c'est pas de l'attente. C'est mieux que l'attente.
Oui, c'est ce que tu formules peut-être dans 13 cases quand tu dis attendre de ne plus attendre.
Oui.
Attendre sans attendre, en fin de compte. C'est-à-dire sans intentionnalité déclarée. L'attente, ce serait donc l'attente à l'état pur.
Elle est productive. Mais peut-être que l'attente orientée... Oui, je ne sais pas s'il y avait une... L'attente orientée, c'est l'attente de quelque chose, de quelqu'un.
Oui.
L'attente de rien me paraît beaucoup plus efficace. Mais je ne saurais pas non plus le... justifier ça. Justement, d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être justifié, c'est comme ça. N'attendant rien, le tout peut arriver.
Oui.
Bizarrement. Alors, qu'est-ce que le tout ? Le tout, il est instantané, mais ensuite il devient relatif.
Mais tu sais que dans cette forme d'attente, là, telle que tu la décris, là, on recoupe encore une fois, certaines postures des mystiques. C'est-à-dire que certains grands mystiques, pour ne pas céder à l'attente de quelque chose, pour être dans l'attente pure, savaient que il fallait répéter certains mots, certaines expressions, inlassablement, jusqu'à ce que l'esprit s'étant vidé, l'énergie extérieure puisse se matérialiser et faire signe.
Ah oui, si tu veux, j'ai le sentiment, là, dans l'immédiat, que l'attente, au sens habituel, c'est un appétit.
Oui, c'est ça.
Un appétit. Alors que mon vide... c'est les choses qui ont éventuellement l'appétit de moi. Pas l'appétit de moi, l'appétit de mon vide. Donc quelque chose peut se produire que je n'attendais pas, que je ne connais pas. L'inconnu peut surgir, parler. Alors, ça a une grande importance, je pense, dans l'écriture, parce que ce qui m'a toujours frappé, c'est que les gens croient qu'il faut avoir quelque chose à dire pour écrire. Et il y a longtemps, je sais que c'est le contraire, il faut n'avoir rien à dire pour écrire, et que c'est ce rien à dire qui produit de l'écriture, et que cette écriture, dans la mesure où, non, qui produit l'abandon à l'écriture, et que cet abandon à l'écriture fait que l'écriture a quelque chose à dire qui ne surviendrait peut-être pas si j'interposais quelque chose que je voudrais dire. Or, bizarrement, ça ne m'empêche pas d'avoir un sujet d'écriture. Je veux dire que si j'écris, le dernier monologue que j'ai écrit, par exemple, qui concerne André Masson, j'avais ce thème, si je puis dire, des autoportraits d'André Masson, mais ça n'a pas empêché que l'écriture, à partir, elle a hésité pendant des mois devant ce sujet. À partir du moment où elle s'est mise en train, elle m'a révélé une quantité de choses que j'ignorais complètement et dont elle a été le révélateur. Voilà. Et alors, c'est un phénomène qui m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi, ça a été beaucoup plus sensible pour moi, mais peut-être tout ça est relatif, ça a été beaucoup plus sensible pour moi depuis que j'écris les monologues. Peut-être tout simplement, enfin ces monologues, ça m'occupe depuis 15 ans maintenant, déjà. Alors, c'est la mise en train du monologue qui me... plutôt le processus qui se met en train avec le monologue qui m'intrigue, parce que quand les premières phrases sont écrites, il y a un moment où les premières phrases sont indubitablement écrites. Pourquoi indubitablement, j'en sais rien. Mais à partir du moment où cette phrase-là est écrite, c'est comme tout le monologue exige son apparition, tu vois. Alors évidemment, avant on pouvait dire, on avait une explication simple qui est l'inspiration.
Oui.
L'inspiration, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je crois que c'est au contraire le travail. La confiance, l'abandon au travail.
L'abandon au travail, oui.
Et non pas l'inspiration. Mais ça produit un phénomène qu'on pourrait qualifier d'inspiration. Si oui. On se rapporte au vocabulaire traditionnel.
Bah, oui, puisque l'énergie s'exerce spontanément, de toute façon. Donc, elle ne dépend pas de nous. Une fois que le moule est prêt...
Mais en même temps, il est indubitable, si tu veux, qu'on peut écrire. Enfin,
avec la volonté d'écrire, etc. On peut faire ça, oui.
Non, mais on peut aussi écrire, et ça s'est fait pendant des siècles, à partir d'un... en développant un sujet.
Oui, bien sûr.
Et là aussi, il se trouve qu'un sujet se développe, mais que ce sujet développe son inconnu. Je crois que c'est ça la différence capitale. Le sujet développe son inconnu, alors qu'au fond, il développait son connu. Son connu documenté. Mais je pense qu'en développant son connu documenté, il développait aussi une part d'inconnu. Mais je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai dans la tête Diderot, qui serait mon auteur favori, si je me laissais aller. Je ne dis pas que je connais plus Diderot que la moyenne des gens. Je le connais sûrement moins que certains contemporains. Mais Diderot serait volontiers mon patron, mon saint patron.
Oui, il y a longtemps que je pense ça.
Tu l'empirisme. Ce n'est pas le cas d'aucun autre auteur du XVIIIe siècle.
Ouais, ouais.
Enfin, Rousseau pourrait peut-être. Mais Rousseau, je l'aime bien, mais il est... Il est quand même plus extérieur. Enfin, à moi, pas à lui-même.
Oui.
Puisqu'on parlait, je crois, hier de son... L'invention du jeu, c'est quand même à lui qu'on la doit, plus ou moins. Du jeu J.E.
Oui, du jeu J.E. Comme mode déambulatoire vide, justement.
Oui.
Non, non, ça va, c'est bien.
C'est quand même une révolution qui a à voir avec la laïcité, entre nous, soit dit.
Diderot, oui, bien sûr.
Non, mais même Rousseau.
Ah, même Rousseau, oui. Oui.
À partir du moment où on affirme le jeu, on peut affirmer une certaine laïcité, je crois. Enfin, ça, c'est toute une histoire. Pour moi, si tu veux, les... Enfin, maintenant, je suis loin de cette affirmation qui a dû me venir à l'époque où je travaillais, où j'avais une passion pour le dictionnaire. Je pense que l'entreprise encyclopédique est une entreprise qui vise à remplacer Dieu par l'encyclopédie. Et donc à mettre l'encyclopédie au centre de la société, à l'endroit où on mettait Dieu avant. L'encyclopédie, c'est le, comment dirais-je, la somme des connaissances humaines.
Oui, de ce point de vue, il est certain que l'idée de Diderot, c'est une idée vraiment géniale à cette époque-là. Quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il en était conscient, d'ailleurs, à vrai dire, s'il était conscient tout à fait de la...
sans doute.
De l'incidence que ça... Enfin, oui, sans doute, en partie, mais...
Je ne sais pas s'il mesurait l'ampleur de l'importance de l'encyclopédie, mais je pense que...
Oui.
Quand même. Enfin, il n'était pas seul à rédiger l'encyclopédie.
Non.
Si tu veux, tout le travail des frères Grimm avec leur correspondance littéraire, ça, c'est aussi une manière de mettre l'homme au milieu.